place à tourner avec moi aussi dans la lettre aux Romains, l'épître aux Romains. Si vous êtes en visite ou ici pour une première fois et que vous n'avez pas une Bible avec vous, les placeurs vont se faire un plaisir. J'espère qu'il nous en reste quelques copies à l'arrière. Les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter une Bible dans Romains 15. Je vois pas d'activité derrière. Oui, merci. Alors, juste levez la main, s'il vous plaît. Une personne ici en avant, dans Romains 15. Juste gardez la main levée, puis on va vous apporter ça. Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec moi? J'ai un long message, 3900 mots ce matin. C'est le plus long message que j'ai écrit depuis 3-4 ans. Alors, on termine vers 2 heures, d'accord? Si vous tombez, je ne peux pas vous ressusciter. Ça ne fait pas partie de mes qualifications. Alors, ne tombez pas de vos chaises, s'il vous plaît. Je reviens sur l'invitation pour cet après-midi. C'est une blague, hein? On ne terminera pas à 2 heures. Mais on termine de prier à 7 heures, 8 heures. Alors, vous êtes invités à vous joindre à nous. On est 6 frères sur le conseil à partir d'une heure. Je vais être là pour le premier tour de garde. Il va y avoir un frère du conseil qui va vous attendre soit ici, soit dans la salle d'allaitement. Mesdames, ça se peut qu'on aille s'installer là. C'est confortable. Pour prier pendant une heure, deux heures. Et donc, à chaque heure, on va prier pour un des éléments de notre vision. D'accord? Alors, on vous demande de prendre un temps spécial aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas le faire, vous partez travailler, n'importe quoi, vous avez des engagements, je vous invite à prendre un temps particulier dans la journée, le mettre de côté pour intercéder, chercher la face de Dieu, supplier notre Dieu de bénir la vision de cette assemblée, cette vision qui est vraiment pour sa gloire, et nous croyons qu'il est entièrement aligné avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la prière? D'accord, c'est moi qui termine, je reviens sur la première prédication un instant. Qu'est-ce que la prière? Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? Grosse définition scientifique. C'est lorsqu'un homme, une femme, un petit enfant s'arrête pour parler à Dieu. D'accord, c'est ça la prière. C'est juste ça la prière. C'est lorsqu'une personne s'arrête dans ses activités et prend le temps de s'adresser à Dieu. C'est la prière. Maintenant, qu'est-ce que la prière du chrétien? Parce que la prière des chrétiens se distingue de toutes les autres prières. Presque tous les hommes, la vaste majorité des gens sur la terre prient. Vous savez ça? C'est rare les gens qui ne prient pas. Pas parce qu'on va avoir une campagne, les autobus athées, que la majorité des gens ne prient pas. La majorité des gens prient. Souvent, rarement, mais ils prient. En quoi se distingue la prière des chrétiens? Parce qu'elle est très différente. Comme le reste des hommes, on s'arrête et on s'adresse à Dieu. La différence majeure, c'est quoi? C'est que nous nous approchons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et ça vient changer complètement notre prière. Ça vient bouleverser notre approche de Dieu. Parce qu'il y a une confiance, une assurance que nos prières sont entendues. Quand Yannick Étier frappe aux portes du ciel, s'il ne le faisait qu'en son propre nom, pas sûr. Pas sûr que les portes seraient ouvertes. Je suis pécheur. Et Dieu a toutes les raisons du monde de ne pas ouvrir les portes, de fermer le canal, de raccrocher le téléphone. Toutes les raisons justifiées sont là. Mais quand Yannick Étier et chacun d'entre nous s'approche de Dieu, frappe aux portes du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est une grâce infinie qui fait que mon Père céleste me regarde à travers la justice de Christ. Le pécheur que je suis disparaît, littéralement, derrière le sacrifice de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, du pécheur que je suis, on peut parler de moi en m'appelant un saint, S-A-I-N-T. Ça, c'est toute une grâce. Et là, le Père est attentif, parce que je m'approche dans le nom de Jésus-Christ, parce que j'ai cru en Jésus-Christ, parce que j'ai cru dans son sacrifice sur la croix pour mes péchés. Et puis, la prière du chrétien se distingue aussi de toutes les autres prières, en ce que nous ne prions pas seuls. Avec la venue de Jésus-Christ, l'Esprit Saint de Dieu a été donné. Et quand moi j'ai cru en Jésus-Christ, et chacun d'entre vous, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous. Et ça, ça vient bouleverser la prière aussi, parce que même si je suis chrétien, je suis tout croche. Combien de fois cette semaine, et Dieu est témoin de cela, je suis allé dans la prière cette semaine en disant, « Seigneur, je suis tout croche. » Pogné avec de la colère. Cette semaine, hier, après-midi, je m'en vais devant Dieu et je dis, « Seigneur, je prie avec ça! » Et ma grâce à moi, c'est que le Saint-Esprit est là. Puis le Saint-Esprit dit, « C'est un pécheur, Père, qui a été gracié par Jésus-Christ. Il est encore en combat. Il est encore un pécheur, mais il appartient à Jésus-Christ. » Laisse-moi formuler la prière à sa place, Père. Je la formule à sa place. Voici ce dont il a besoin. Il n'est pas capable de savoir en ce moment-ci. Hey, c'est toute une grâce, ça. C'est toute une bénédiction. Alors, les prières des chrétiens se distinguent de toutes les prières parce qu'on vient dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit de Dieu, accompagné par l'Esprit de Dieu, et il intercède pour nous lorsqu'on est tout croche. Il intercède en notre faveur. On a vu ça le premier dimanche, le 1er février, et puis dans les quatre dernières semaines, ce qu'on a vu ensemble, nous avons exploré ensemble la vie de prière de Paul. On aurait pu aller dans les psaumes, on aurait pu aller étudier la prière à travers les psaumes, il y a tellement de choses à apprendre à travers les psaumes, on l'a vu brièvement tout à l'heure, une belle prière dans le psaume 119, il y a tellement de choses à apprendre, on aurait pu aller étudier les prières de Jésus, d'accord? Je voudrais pas que vous croyiez que lorsque tu es en Jésus-Christ, quand tu es chrétien, la seule prière que tu fais, c'est « Seigneur, aide-les à comprendre la grandeur, la profondeur, la beauté de l'Évangile. » Alors ça, c'est les prières de Paul. Là. Il y a d'autres prières aussi dans la Bible. On pourrait étudier toute l'année la prière à travers les Écritures. Paul n'est pas notre seul modèle de prière. Mais en même temps, il y a quelque chose de particulier avec Paul. Pourquoi aller étudier les prières de Paul? Ben parce qu'on a la vie de prière d'un homme qui prie après la venue de Jésus-Christ. Et toutes les prières de Paul sont différentes des prières qui sont formulées avant. Ça va ressembler, mais c'est différent. Parce que Paul vient dans la prière, après que Jésus-Christ soit venu, qu'on ait compris l'Évangile, et non seulement après, mais Paul lui-même, Paul particulièrement, avait reçu des révélations de Dieu comme peu d'hommes en avaient reçu. Paul avait une compréhension de l'Évangile, de la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, comme peu d'hommes en ont jamais eu. Et lorsque tu comprends vraiment la beauté de ce que Christ a fait pour nous, l'amour de Dieu à la croix, tout ce qui nous a été acquis, toute l'espérance qui est attachée à ça, tout ce qui nous est promis pour l'éternité, ta foi est bouleversée. Tu ne pries plus de la même manière. Tu n'adresses plus tes prières de la même manière. Tu ne vois plus la vie ici-bas de la même manière. Ça vient bouleverser ta vision du monde. Ça vient bouleverser ta vision de Dieu. Qui pouvait saisir l'amour de Dieu comme celui qui comprenait véritablement l'Évangile? Christ sur la croix. Hey, c'est une grâce incroyable pour nous de prier après la venue de Jésus-Christ. Cherchez dans toutes les Écritures une telle expression d'amour de la part de Dieu. Vous n'en trouverez pas. Le summum de l'expression de l'amour de Dieu, c'est la croix. Prier après la croix, vient changer notre confiance, notre assurance lorsqu'on s'approche de Dieu. Écrasé par le fardeau de mon péché, je m'approche de Dieu avec cette confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est une grâce incroyable. Et les prières de Paul sont affectées par ça, sont transformées par ça. Et c'est pour ça qu'on veut apprendre à prier avec Paul. Il y a une assurance, il y a une confiance dans des circonstances qui sont difficiles. Quand tu comprends l'Évangile comme Paul l'a compris, tu ne pries plus de la même manière que le reste des hommes. Tu ne vis plus de la même manière que le reste des hommes. Tu ne vois pas le monde, tes journées de travail, tes obstacles, tes difficultés dans la vie. Tu ne vois plus ces choses-là de la même manière que le reste des hommes. Quand tu as saisi l'Évangile comme Paul l'a saisi. Il y a une espèce de folie qui se dégage de Paul. Si vous êtes familier un petit peu avec le Nouveau Testament, cet homme-là était un fou. Mais vraiment un fou. Un beau fou. Mais il y avait une passion, il y avait une énergie dans cet homme-là. Sa course ne s'arrêtait jamais. Il a quitté ce monde en courant parce qu'il avait été bouleversé par le message de l'Évangile. Il y a une folie chez Paul, il y a une passion, il y a une énergie. Et c'est ça que nous avons voulu contempler ensemble, afin que nos prières, par la grâce de Dieu, dans les années à venir, soient de plus en plus remplies de cette folie-là, de cette passion, de ce feu, de cette énergie. Quand les bien-pensants du temps de Paul, autant les Juifs que les Grecs, entendaient ce gars-là parler de Dieu qui avait envoyé son Fils, jusque-là, c'est pas pire. Mais son Fils qui était venu mourir sur une croix pour le péché des hommes, et que simplement en croyant dans ce sacrifice, tous tes péchés pouvaient être effacés. T'avais beau être le plus grand meurtrier du monde, on repart en neuf. Et non seulement cela, mais il était mort sur une croix, le Fils de Dieu livré aux mains des hommes, et le troisième jour ressuscité d'entre les morts. Quand Paul ouvrait la bouche puis commençait à raconter ça, il passait pour un fou. Autant pour les Juifs que les Grecs. Ça n'a pas de bon sens que ce soit si simple. Ça n'a pas de bon sens que ça ait demandé le sacrifice du Fils de Dieu. Ça n'a pas de bon sens que Dieu ait livré son Fils aux mains des hommes. Trouvez-les, toutes les options sont possibles. Il passait pour un fou. Et vous avez juste annoncé l'Évangile aujourd'hui, vous allez passer pour des fous, je vous l'assure. C'est sûr que si vous annoncez une partie, ça va. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, là, ça passe, mes amis, c'est génial. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ça va. Maintenant, il faut expliquer la vie éternelle par rapport à quoi? La condamnation éternelle. Oh boy! Condamnation éternelle, Dieu, condamnation éternelle, t'es malade. Ça ne sera pas long, vous allez passer pour des fous. Paul passait pour un fou. Mais il y avait une folie en lui, une passion, un amour qui était là, qui transparaissait dans sa vie de prière. Il y avait des visions de grandeur, cet homme-là. Que voulez-vous? Paul avait été saisi par une révélation de Dieu. Il avait saisi l'amour de Dieu pour lui et l'amour de Dieu pour les gens autour de lui. Et ça venait consumer toute sa vie. Cette vérité-là consumait toute cette vie, toute sa vie. Et notre prière, la prière de tout le conseil des anciens, c'est qu'à travers ce mois-là où on a regardé ensemble des prières de Paul, des prières qui sont souvent tellement différentes de nos prières. Vous savez, dans le Notre Père, ce qu'on fait, si je prenais nos vies de prière en général, dans le Notre Père, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la première partie puis on s'en va tout de suite à la suite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Amen. Ah, mais le début, que ton règne vienne. Dans ma vie, comme dans les cieux, dans la vie de mes enfants, de Bastien, de Jade, de mon épouse, dans cette église, dans cette ville, que ton règne vienne, Seigneur. Notre prière, c'est qu'un peu de cette folie, de cette vision de grandeur qu'il y a dans les prières de Paul, constamment, Paul voyait grand pour le royaume, que vous ayez été touchés par cela un tout petit peu, et que notre vie de prière commence à être transformée. C'est ça. Notre prière, c'est ça notre objectif en étudiant les prières de Paul, c'est que notre vie de prière commence à prendre de la grandeur, qu'elle commence à prendre de l'ampleur, que notre vision de ce que Dieu veut et peut faire commence à prendre de l'envergure un peu, et qu'on commence à voir grand et rêver dans la vie des gens autour de nous, dans notre vie, dans cette ville et pour la terre entière, de ce que Dieu veut faire pour l'avancement de son royaume. C'est ça notre prière et c'est pour ça qu'on étudie les prières de Paul. C'est pour aller chercher de cette passion-là dans nos vies. Apprendre à prier avec Paul, c'est apprendre à étirer notre foi. C'est élargir notre foi, c'est voir plus grand. C'est commencer à regarder un peu plus haut, beaucoup plus loin pour le royaume. Apprendre à prier avec Paul, c'est apprendre à prier avec une vision plus élargie de ce que Dieu veut faire dans la vie. Prier avec Paul, c'est regarder plus haut avec lui que l'immédiat. Prenez le Notre Père, je reviens là-dessus encore. C'est une très bonne prière. Placez-la dans notre contexte à nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et je pense qu'il faut le faire. C'est important parce qu'il faut qu'on réalise que ce n'est pas ma paye, ma job, mon travail qui a mis de la nourriture sur la table. Ça prend une maladie, puis tu le sais que c'est juste la grâce de Dieu. Donc, c'est important de la faire. Mais soyons francs. De ce jour, j'ouvre le garde-manger. De demain aussi, je peux déjà te remercier. Après-demain, on devrait être bon. Congélateur, 3 semaines, 1 mois, merci Seigneur, c'est tout là, c'est beau. OK, je passe à quoi maintenant? Où je m'en vais? Je m'en vais apprendre à prier avec Paul pour voir plus loin, rêver plus grand que ça. Rêver de tout ce que Dieu veut faire dans la vie des gens autour de moi. Des belles choses, spirituelles, racheter des âmes, gagner des âmes. Faire avancer son Église, bouleverser nos vies, libérer des frères et des sœurs de péché, ma propre vie. Dieu est puissant pour ça, pas juste pour mon pain quotidien, pas juste pour ma santé. Et ce sont de bonnes prières, on l'a répété tout le long du mois, mais plus d'envergure encore, et prier à la grandeur de Paul. Apprendre à prier avec Paul, c'est étirer notre foi, élargir notre foi, agrandir notre foi. Pour Paul, la prière, c'est l'endroit où les batailles doivent être livrées. Paul avait la conviction qu'il n'y a rien qui bouge vraiment si ce n'est pas apporté dans la prière. Et on l'a dit pendant le mois, je me le répète régulièrement, ma vie de prière est un reflet de ma conviction là-dessus. Ma vie de prière reflète si je crois comme Paul, si je pense comme Paul. Paul était convaincu qu'il n'y a aucune bataille qui est véritablement gagnée si elle n'est pas apportée dans la prière. Il était convaincu de ça. Et Paul était un homme d'action. C'est ça qui est le fun avec Paul, c'est que vous n'avez pas un moine cistercien retiré dans son monastère qui est là puis qui fait des prières toute la journée. C'est pas vraiment ça, Paul. Hein? Paul, c'est le gars des périls, des navires qui vont s'échouer, des fouets, de la prison, des églises qui sont implantées, des projets de voyage constants. Paul était un homme dans l'action constamment. C'est un homme qui n'avait pas peur d'entrer dans l'action, de travailler très, très fort, mais il avait la conviction que tout ça ne menait à rien si la bataille n'était pas livrée dans la prière. Si la bataille n'était pas gagnée dans la prière. Maintenant, ce matin, on va terminer avec cette série sur les prières de Paul avec une prière un petit peu différente. On va aller voir un autre aspect de la vie de prière de Paul qu'on n'a pas vu à travers le mois, c'est-à-dire qu'on va aller voir une requête personnelle de Paul. Qu'est-ce qu'un gars comme Paul apportait comme requête personnelle? Si vous aviez pu vous asseoir avec lui, puis vous aviez dit, « Paul, pourquoi t'aimerais que je prie pour toi? » Qu'est-ce qu'il vous aurait partagé comme requête? Tournez avec moi dans Romains 15, si vous n'êtes pas déjà là. Romains 15. La requête qu'on va regarder est dans les versets 30 à 33, mais je dois absolument vous mettre dans le contexte pour que vous puissiez comprendre cette requête-là. Vers la fin de la lettre, Paul partage une requête, je vous donne le contexte. Lorsque Paul écrit la lettre aux Romains, d'accord? Je me mets de votre côté, Rome, c'est ici. Quand Paul écrit la lettre aux Romains, il est à Corinthe, 800 kilomètres à peu près, un peu plus, d'accord? Il est à Corinthe à ce moment-là, lorsqu'il écrit cette lettre-là, et il est en route pour Jérusalem. Rome, Corinthe, Jérusalem, d'accord? Paul est en route pour Jérusalem lorsqu'il écrit la lettre aux chrétiens qui sont à Rome. Il vient de terminer une grosse levée de fonds à travers l'ensemble des églises que lui-même avait implantées pour la majorité. Il a récolté des fonds qu'il veut apporter à Jérusalem pour aider les chrétiens là-bas qui sont dans le besoin, des chrétiens qui ont certains besoins financiers. Maintenant, pour comprendre la requête qui va être mentionnée ici, qu'on va regarder ensemble, il faut savoir qu'avant d'être chrétien, Paul était premièrement un juif, d'accord? Avant de s'être converti à Jésus-Christ, il était juif. C'est un juif qui avait reconnu en Jésus le Messie. Les juifs attendaient, et nombre d'entre eux attendent encore, un Messie, un Christ, un Sauveur qui allait venir. Paul, un jour, a eu une révélation et l'a saisi que c'était Jésus de Nazareth, ce Messie qui était attendu. Donc, Paul est un juif qui, contrairement à la majorité des gens de sa nation, a reconnu en Jésus de Nazareth le Messie tant attendu. Pour un juif, Paul, c'est un vire-capot. D'accord? Mais non seulement ça, avant de se convertir à Jésus-Christ, Paul était un pharisien. Il était un docteur de la loi. C'était un leader parmi les juifs. Quand cet homme-là s'est converti, c'est un leader juif qui s'est converti et qui, quelques 14 ans plus tard, va devenir un leader chrétien. C'est pas juste un vire-capot. C'est quelqu'un qui est en train de bâtir une secte parmi les Juifs, puis qui va chercher des païens, puis qui mélange tout ce monde-là, puis qui dit « Le ciel est ouvert à tout le monde, vous avez juste à croire en Jésus. » Oh! Il n'y avait pas juste des amis, Paul, d'accord? Et pas juste chez les Juifs qu'il avait des ennemis, il y en avait partout, d'accord? Mais disons qu'il en avait chez les Juifs, ça c'est assez évident, parce que Paul avait cru en Jésus-Christ. Et là, cet homme-là est en train de se rendre à Jérusalem pour aller donner de l'argent à des Juifs convertis à Jésus-Christ. Disons qu'il n'avait pas froid aux yeux, OK? Il courait après le trouble, à mon avis. Puis ça a l'air même qu'il y avait certains chrétiens qui trouvaient qu'ils couraient après le trouble. Et on s'est dit, fais pas ça, Paul. Non, fais pas ça. Maintenant, dans cette lettre qu'il écrit aux chrétiens de Rome, il leur partage ses projets. Il faut que vous sachiez que Paul était un implanteur d'églises. C'est ça qu'il faisait, il implantait des églises un peu partout. C'est pas lui qui a implanté l'église de Rome. Il connaît des chrétiens à Rome parce que Paul était partout, il connaissait plein de monde, il connaissait plein de chrétiens, alors il salue des chrétiens à Rome qu'il connaissait, mais c'est pas lui qui a implanté cette église-là, d'accord? Il connaît pas vraiment cette assemblée-là, il s'est jamais tenu dans la présence de cette église, de cette assemblée. Et lorsqu'il écrit cette lettre aux chrétiens de Rome, il leur partage ses projets. Alors voici ses projets, il est à Corinthe, il termine de faire cette levée de fonds, il veut se rendre à Jérusalem, il veut aller adorer Dieu aussi à Jérusalem en passant, et il veut aller apporter de l'argent aux chrétiens qui sont dans le besoin à Jérusalem. Et son projet ensuite, c'est de repartir pour Rome. Aller se reposer un peu là-bas, pour Paul ça veut dire enseigner la parole de Dieu, aller enseigner la parole de Dieu aux chrétiens de Rome, je pense probablement aller recruter une couple de compagnons d'œuvre. Puis après ça, il dit, OK, ensuite je pars pour l'Espagne. Parce que Paul voulait toujours aller travailler là où l'Évangile n'avait pas été annoncé. Vous voyez le genre de bonhomme que c'était? Il était constamment dans des visions de grandeur, dans des rêves. Il voulait toujours pousser plus loin. Il n'arrêtait pas d'avancer. Il était dans une course jusqu'à la fin de sa vie. C'était la vision de Paul. C'était un missionnaire. Il avait constamment des projets, des visions de grandeur. Et Paul va terminer sa vie en courant. Il est une inspiration. Ce n'est pas juste ses prières qui sont une inspiration. C'est la fin de sa course aussi qui est une inspiration. Parce qu'il a été bouleversé par le message de l'Évangile, Paul avait toujours des rêves pour aller plus loin. Jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de retraite dans la tête de Paul. Il fallait que Dieu vienne le chercher ou qu'il l'attache dans un lit pour l'arrêter un peu. Et je suis certain que dans le lit, il faisait comme M. Mercier. Je l'ai visité une semaine à peu près avant son départ. Il est encore en train d'annoncer l'Évangile, il est encore en train de me refiler des livres. Paul était une inspiration, mais il n'y a pas juste lui qui est une inspiration. Puis il n'y a pas juste les M. Keefe, les M. Alexanian. Dans cette assemblée, il y a plein de personnes. Vous avez saisi cette vision de Paul, saisi par l'Évangile. Il n'y a pas vraiment de retraite dans le Seigneur. Et je vais vous donner un exemple qui m'a touché dernièrement. Je sais que les prévôts sont là, fait que je ne vais pas vous mettre mal à l'aise. Mais les prévôts sont à la retraite. Ils sont en vacances dans le sud. Je reçois un courriel. Je prends mon courriel. Mme Prévost est en train d'écouter un de mes messages, puis elle voulait m'envoyer un petit mot d'encouragement. Et puis là, elle me partage que lorsqu'ils sont sur les plages, là-bas, ils sont en train de distribuer des petites bibles aux gens là-bas. Puis je me souviens plus. Combien vous en avez distribué, M. Prévost? Combien? 400! Bon. Je ne sais plus à combien vous étiez rendu, mais là, mentionne ça. Ils sont à la retraite. Ils prennent un peu de vacances, on va se reposer, faire le plein. Pendant qu'ils sont en train de se reposer, ils se reposent comme Paul à Rome. Oui. Ils se reposent, c'est beau, c'est correct. Ils distribuent des Bibles. Puis là, ils s'en reviennent ici, continuent à servir le Seigneur. Il y a des petits ajustements à faire un petit peu avec l'âge. On voudrait quand même pas se lancer en bas d'un toit, n'est-ce pas? Rendu à un certain âge. Il faut leur expliquer quand même, tu sais, que c'est pas parce qu'on est au Seigneur qu'on peut voler en bas d'un toit. C'est juste au son de la trompette, M. Prévost, qu'on décolle. On bénit le Seigneur que ces frères-là se soient remis entièrement, puis on a prié pour ça. Mais voyez-vous, cette inspiration, bouleversée par l'Évangile, il n'y a pas de retraite. On court jusqu'à la fin. C'était ça la vie de Paul. C'était ça la vision de Paul. Ses prières vont être teintées par autant d'envergure, autant de rêves, autant de passion pour l'Évangile et pour l'avancement du royaume. Alors ça, c'était les projets de l'apôtre Paul. On regarde la requête ensemble. Versets 30 à 33. Romains 15, 30 à 33. « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » La première chose que je remarque dans le passage ici, c'est le ton. Voyez-vous, Paul n'est pas en train juste de glisser une petite requête. Hey, en passant, si tu y penses, tu prieras pour moi. C'est pas ça le ton du tout, hein. Je vous exhorte. Je vous presse à prier pour moi. Et le ton, c'est un combat. Remettez-vous dans le contexte de l'époque. Paul est à Corinthe. Il écrit une lettre, d'accord? Dans lequel il place une requête de prière. On n'est pas à l'époque des courriels. Il envoie cette lettre-là à Rome. Maintenant, Paul sait qu'il s'en va dans le trouble, qu'il va avoir des obstacles, qu'il va avoir des difficultés à rencontrer. Il écrit sa requête. On n'est pas à l'époque des courriels. Ça va voyager par eau, par mer, par cheval, si ça se rend, dans quelques semaines, dans quelques mois. S'il avait été à l'époque des courriels, ben il aurait tapé son courriel. Je pense qu'il aurait attendu d'approcher de Jérusalem, puis il aurait dit, « OK, je rentre dedans les boys, j'envoie un courriel. » C'est le temps. On s'en va dans la prière toute la gang. Mais c'est pas de même que ça marchait. Pourquoi Paul prend le temps d'écrire cette toute petite requête pour une lettre qui va arriver des mois plus tard? C'est parce que Paul croit profondément que la prière fait une différence. Et Paul sait que des semaines, des mois plus tard, lorsque la lettre va enfin arriver à Rome, plus de 800 kilomètres plus loin, lui va être rendu plus loin dans son voyage. Ou en prison, je ne sais pas. À quel moment ils l'ont reçu, je ne sais pas. Mais il sait que le jour où la lettre va arriver à Rome, que les anciens vont recevoir cette lettre, qu'ils vont rassembler l'Église un dimanche matin et qu'ils vont commencer à lire la lettre, il sait qu'à ce moment-là, l'Église de Rome va tomber à genoux dans la prière et il sait que le Père céleste va tendre l'oreille aux prières des saints en sa faveur. Paul a la ferme conviction que lorsque ces chrétiens-là vont tomber à genoux dans la prière pour lui, ça va venir avoir un impact immédiat sur son ministère. C'est pour ça qu'il a pris le temps de mettre une toute petite requête dans une lettre qui allait être lue des mois plus tard, qui allait être priée des mois plus tard, ne sachant même pas où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire. Parce qu'il avait la ferme conviction, il l'avait expérimenté sur le terrain, les chrétiens ont un accès auprès de Dieu. Et lorsqu'ils se mettent à genoux, ça fait une différence dans mon combat à moi. Quand les Baskounans viennent ici devant nous, quand Irv Gonski du Pakistan vient devant nous, quand Hugo nous envoie une lettre de nouvelles de Rivière-du-Loup et que les missionnaires nous disent « On vous demande de prier pour nous », c'est parce qu'eux autres sont sur le terrain. Eux livrent les combats et ils savent que la prière fait une différence. Ils expérimentent concrètement des portes qui sont ouvertes de manière extraordinaire pour l'Évangile, comme ils ne pouvaient même pas s'y attendre parce qu'ils le voient de leurs yeux. Le Père écoute les prières des saints, écoute les prières des chrétiens, il est attentif. Son cœur est favorablement disposé, il écoute les prières et ça vient faire une différence. Et c'est pour ça que Paul leur demande de venir combattre avec lui dans la prière. Maintenant, l'expression qu'il utilise ici, c'est le combat. Pour Paul, c'est un combat qui est livré ici. Et je pense pas que Paul avait dans l'idée, si vous êtes pas mal familier avec l'Ancien Testament, il y a un combat que Jacob va livrer avec Dieu. C'est pas de ce genre de combat-là dont il est question. On est après la venue de Jésus-Christ. Jésus nous a dit, si vous priez le Père en mon nom, waouh, les portes sont ouvertes. C'est pas le même combat. c'est que Paul a la ferme conviction, il sait qu'il est engagé dans une guerre spirituelle. Voyez-vous, Paul s'en va pas partir une business, Paul s'en va pas installer une maison, il s'en va pas faire quelque chose d'accessible, admettons, à tous les hommes. Paul s'en va livrer une guerre spirituelle. Il s'en va annoncer l'Évangile. Et ce qu'il veut voir et ce que nous voulons voir, c'est des gens qui n'ont rien à faire de Jésus-Christ, qui ne se sont jamais intéressés à Jésus-Christ, qui vivent leur vie en disant « j'ai rien à faire de Dieu, j'ai pas besoin de lui dans ma vie et j'ai certainement pas besoin qu'il vienne diriger dans ma vie ». Et tout d'un coup, par la grâce de Dieu, ils virent complètement de bord, comme Paul qui est passé d'un reniement complet de Jésus-Christ à une foi entière en Jésus-Christ. Et quand quelqu'un qui est campé dans son orgueil, « j'ai pas besoin de Dieu », tombe à genoux et dit, « Père, je suis pécheur, Seigneur. Et si ce n'est pour la grâce du salut en Jésus-Christ, je ne mérite aucune de tes faveurs, Seigneur. » Quand vous entendez une personne dire ça, là, c'est un miracle qui se passe. Il y a une victoire spirituelle qui a été acquise. Vous l'avez expérimenté dans votre propre vie. Est-ce que votre conversion n'est pas un miracle? Honnêtement, j'en avais rien à faire de Dieu, moi. J'avais pas besoin de lui et certainement pas des entraves, des limites, des cadres que la Bible allait apporter dans ma vie. C'est la dernière chose dont j'avais besoin. Ma conversion est un miracle. C'est pas un endoctrinement. J'ai pas suivi la foi de ma mère. J'ai pas été embarqué dans une secte. C'est pas une gang qui sont venus me chercher. C'est Dieu qui est allé me chercher et qui m'a poursuivi jusqu'à temps que j'abdique. Que je dise, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ça, c'est un miracle. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, Paul est convaincu qu'il est engagé dans une guerre spirituelle. On ne veut pas juste être des bons orateurs. On ne veut pas juste jouer de la musique puis qu'elle soit super bonne, notre musique. On veut exercer un ministère spirituel. Et c'est l'Esprit Saint qui va venir le faire, ça. Ça va être une œuvre de Dieu. Lorsque les fruits vont être véritables, lorsque les fruits vont être durables, lorsqu'il va y avoir des vies bouleversées, des gens qui vont abandonner des péchés, des gens qui luttent pendant des années avec des péchés. Ils savent qu'ils sont esclaves, incapables de s'en sortir. Quand, par la grâce de Dieu, ils vont être libérés enfin. Ils vont pouvoir dire, je suis libre de ces chaînes-là. C'est un miracle. C'est une guerre spirituelle qui a été livrée. C'est une victoire spirituelle qui a été acquise. Et Paul a cette conviction qu'il est engagé dans une guerre spirituelle. Je vous lis une autre prière de Paul dans Éphésiens 6, 18 à 20. Vous pourrez aller la lire plus tard, d'accord? Prenez pas le temps d'y tourner. Je fais juste vous la lire pour vous donner une idée de la vision de Paul. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Cette prière-là, c'est plus loin dans son histoire, on va y revenir tantôt. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Voyez-vous ce feu, cette conviction aussi que tout dépend de Dieu, que ça ne dépend pas que de lui. C'est Paul qui demande ça. Paul demande de l'assurance. Regarde, mon homme, t'es rendu dans les chaînes, t'as plus besoin de rien. T'as déjà fait tes preuves. Vas-y, Paul. On te donne le contrat. Il y a encore besoin que Dieu vienne fortifier son âme afin qu'il ne s'écrase pas devant le fardeau, afin qu'il ait du courage, afin qu'il ait de l'hardiesse, afin que Dieu vienne ouvrir les yeux de ses auditeurs et qu'il puisse saisir. C'est un vrai combat spirituel, la prière. Le ministère de la prière est un ministère de combat où on est engagé dans une bataille spirituelle. Et vous avez juste à commencer à prier pour l'expérimenter vous-même. Lorsqu'on s'en va dans la prière, et qu'on prie avec les Écritures. On apprend à prier comme Paul, puis là, tu prends les prières de Paul, puis tu te mets à genoux dans la prière, puis tu commences à aller dans la prière, puis des prières d'une envergure incroyable. Et là, souvent, tu es confronté avec ton incrédulité. C'est ton cœur qui est là, puis qui dit, « Père, comment je peux te demander ça? J'y crois pas pantoute. » Ce frère-là, là, ça fait 20 fois qu'il s'éloigne de l'Église, qu'il abandonne, qu'il retourne dans le monde. Puis moi, je vais prier... que tu viennes le faire grandir dans la foi, j'y crois pas, Seigneur. C'est ça le combat de la prière. Je m'en vais dans la prière et puis après 3 minutes, la pensée qui me vient, c'est bon, je pense que je vais me lever, j'ai des choses à faire. Désolé Seigneur. Non, c'est correct Seigneur, je suis à la bonne place, je suis à la bonne place. Puis je m'en vais dans la prière, puis je vois mon apathie spirituelle, mon manque de passion pour Dieu, le fait que je suis indifférent par rapport à l'état du monde, je suis indifférent par rapport au péché dans la vie des gens autour de moi, je suis indifférent par rapport à la douleur d'un frère ou d'une sœur, je suis confronté à ça dans la prière. Lorsque je prie avec les Écritures, lorsque je prie les prières de Paul, je suis confronté à mes propres faiblesses et je vois bien qu'il y a un combat spirituel qui est là. Puis là, d'autres fois, je m'en vais dans la prière et je suis rempli de foi. Seigneur, tu es puissant, tu peux le faire, j'y crois, Seigneur. Tu vas y arriver. D'autres fois, rempli d'apathie. Je manque de foi, je n'y crois pas. C'est tout un combat qui est livré là dans la prière. Je vous exhorte à combattre avec moi dans la prière. Maintenant, le mot qui est utilisé ici fait partie d'un ensemble de mots qui parle, ça fait allusion à aussi à tout l'entraînement que les athlètes pouvaient faire. D'accord? Vous avez déjà souvent entendu ça? Cette idée de combat, c'est ça. Et juste pour essayer de le résumer, un grand missionnaire, Samuel Zwemer, qui a été un missionnaire qui est allé implanter des églises dans les pays musulmans. D'accord? Voici comment lui définissait la prière. Il disait, la prière, c'est le gymnase de l'âme. Dans le sens d'un endroit d'entraînement. Et honnêtement, c'est vrai. Tu sais et tu connais ta maturité spirituelle lorsque tu vas dans la prière et que tu restes dans la prière. Et ça dit tout. Passe en revue tes proches. Regarde ce qui te préoccupe dans la prière. Regarde quelles sont tes requêtes. Regarde avec quelle foi ou quel manque de foi tu pries. Ça dit tout sur ta condition spirituelle. On a tout à exercer et à apprendre dans la prière. Avec la parole de Dieu, parce que je suis dans le silence, et je m'exerce à méditer sur ces passages qui sont tellement grands de promesses que je suis là, puis je dis, Seigneur, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, après ça, la chair vient, puis elle dit, puis en plus, je le sais, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et je suis là dans ce gymnase de l'âme où je suis en train de lutter, je suis en train de m'étirer, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à faire des prières sérieuses. Apprendre à prier avec Paul, c'est littéralement étirer notre foi. Ce matin, on va faire quelque chose. Je vais illustrer très concrètement comment vous devriez vous sentir lorsque vous sortez d'un temps de prière avec Paul. OK? Je vais vous demander de vous lever, tout le monde. On se lève, tout le monde. On va faire un petit workout ensemble. D'accord? Juste un petit exercice, tout simple, tout simple. Je vais vous demander d'étirer votre bras. On va tous sortir nos chemises de nos culottes, mais c'est juste moi qui vais avoir de l'air fou. Essayez d'aller accrocher le plafond, OK? Tout le monde, come on, tout le monde. Monsieur Saunier, essayez d'aller décrocher le plafond. Pas le flatter, tirez fort. Faut que ça fasse mal un petit peu ici. Tirez, tirez, tirez. L'autre bras, allez chercher en avant. OK, penchez-vous par en avant, essayez d'aller le plus loin possible. Il faut que ça tire dans le côté ici. Come on! L'autre bras, l'autre côté! Sentez-vous le bien que ça fait? Oh, ça fait du bien! J'adore les étirements, c'est génial! J'aime faire la musculation, ça paraît pas, là, mais j'adore les étirements. Puis quand tu t'étires comme ça, quand tu es en train de t'étirer, c'est comme si tu essaies d'aller au maximum, je l'atteindrai jamais! Vous comprenez? J'y toucherai jamais! Apprendre à prier avec Paul, c'est exactement ça. Paul est là et il essaie, par la foi, d'aller saisir Christ, d'aller jusqu'au bout. Il veut se rendre en Espagne. Quand je m'en vais dans la prière avec Paul, quand je sors de ce temps de prière, je devrais me sentir comme après une heure d'entraînement et d'étirement. Je me suis pas rendu. J'ai pas levé mon 150 livres. J'ai pas encore réussi à faire la split. L'autre fois, je voyais des petits bonhommes qui faisaient la split. Non, je ne suis pas rendu. Mais je suis rendu plus loin, par exemple. Je vois plus grand, j'ai avancé. Vous pouvez vous asseoir. Je vais rendre ma chemise dans mes culottes. Les gens qui s'entraînent, vous savez ce que c'est? Quand tu viens de finir une séance de sport puis qu'à la fin, tu termines avec tes étirements, on se sent bien. Pourtant, on n'est pas rendu. Hein? Il en reste encore. Puis il n'y en a pas beaucoup plus. Je fais pas plus la split. Mais j'ai avancé. J'ai progressé. quand je termine un temps de prière à la Paul, c'est ça que je suis en train de faire spirituellement. Je n'ai pas encore saisi. Je n'ai pas tout saisi, mais j'ai étiré ma foi, j'ai élargi ma foi. Je suis capable de voir plus grand, de croire davantage et d'attendre davantage de la part de Dieu. Et je devrais sortir de ces temps de prière comme d'une séance d'entraînement. Fatigué, raqué, mais je me sens bien. Parce que j'ai étiré un peu plus ma foi. Je suis allé un peu plus loin. Prier avec Paul va produire ça dans vos vies. Quand tu commences à faire des prières sérieuses comme Paul, quand tu te détaches un peu de l'immédiat, du day-to-day, des besoins immédiats, c'est correct de les faire, mais tu vois plus grand, tu vas plus loin. Prier comme Paul, c'est livrer un combat, c'est entrer dans une zone de combat. Maintenant, il y a deux aspects à ces requêtes. Est-ce que c'est possible de mentionner aux enfants? Je vais terminer vers moins 5. Juste aller avertir en haut les animateurs, s'il vous plaît. Deux aspects à sa requête, d'accord? Deux aspects. Premièrement, regardez bien, c'est assez étrange pour nous, parce qu'on n'est pas dans un contexte aussi difficile, et pourtant, c'est tout à fait applicable. Verset 31. « Afin que je sois délivré des incrédules de Judée. » Je l'ai dit, Paul court après le trouble. Il est à Corinthe, il n'est pas tellement aimé à Jérusalem, à part par les chrétiens. Il a pas une, tu sais, il est sur une blacklist, ce gars-là. Et là, il s'en retourne là-bas à Jérusalem. Et donc, sa requête, c'est « Priez pour moi afin que je sois délivré des incrédules. » Ce que vous avez probablement comme moi, c'est « incrédule », c'est mieux rendu par « rebelle ». Le mot grec veut dire « les désobéissants ». C'est pas, quand Paul est en train de dire « ici incrédule », il n'est pas en train de dire « ce sont des gens qui n'ont pas réussi à croire en Jésus parce que c'était comme trop flyé ». Non, non, ce sont des opposants de la foi. Ce n'est pas juste des gens qui n'ont pas cru dans le message de la bonne nouvelle, c'est des gens qui attaquent ceux qui l'annoncent, le message de la bonne nouvelle. C'est une prière qui est encore d'actualité. C'est une requête de prière qu'on doit encore offrir actuellement. Il va toujours y avoir des gens qui ne vont pas s'en tenir à dire « ben moi, je ne crois pas ». Ils vont se faire un devoir, se donner une mission, d'essayer d'empêcher d'autres de croire aussi. Il va toujours y en avoir. Bon, là, on va avoir une petite campagne. Les autobus athées. Dieu n'existe probablement pas, fait que have fun. Ah oui, OK, il va voir ça. Mais je pense aussi dans les écoles avec le cours de ECR. Il y a tout un combat à livrer dans la prière. Vous annoncez l'Évangile à un collègue de travail, à un ami au travail, puis il y a quelqu'un d'autre qui embarque. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu dans la conversation, puis il se fait un devoir de dire hey, laisse-toi pas embarquer là-dedans, voyons donc. Il va toujours y avoir des opposants à la foi. Le combat est véritable. On est au Québec, ça prend pas beaucoup pour réaliser qu'il y a des gens qui méprisent profondément la foi. Puis souvent, ils ont des micros et une caméra. Des opposants à la foi. Et il faut livrer ce combat, dire « Seigneur, viens nous délivrer parce que on veut aller gagner les élus, Seigneur. » Si ce n'était que le fait qu'ils ne croient pas et qu'ils en rendent compte devant Dieu quand ils comparaîtront, ce serait une chose. Mais ils ont aussi une mission personnelle. C'est de s'opposer à la foi, attaquer l'autorité des Écritures. Et ça ne vient pas toujours des gens seulement qui se disent non-chrétiens ou qui se disent athées. Vous avez lu peut-être dernièrement, au mois de décembre, dans l'actualité, un article écrit par une théologienne de l'Université de Montréal. Donc, elle se dit chrétienne, mais elle attaque les Écritures, elle essaie de détruire les Écritures. Bien, il va de bon cœur avec toutes ses convictions. Ce n'est pas la parole de Dieu, cette affaire-là. Les opposants de la foi ne viendront pas seulement de l'extérieur. Ils vont venir aussi des gens qui vont se professer, qui vont dire être chrétiens. Ça, c'est sa première requête, et c'est une requête d'actualité. On a un combat à livrer afin que Dieu nous délivre des opposants de la foi qui ne veulent pas qu'on prêche l'Évangile. Et dans vos familles, chez les gens auprès de qui vous témoignez, vous avez des prières à faire, pas juste pour ceux qui doivent se convertir, mais pour ceux qui sont agressifs à l'égard de la foi aussi. Et Dieu est puissant pour les faire taire, pour les confondre. On doit les aimer avec l'Évangile de Jésus-Christ, même pour faire d'eux des apôtres Paul, qui était un opposant de la foi. Et j'imagine qu'il y avait des chrétiens qui priaient, peut-être pas pour qu'ils se convertissent, mais qui priaient pour Paul. Peut-être pour un accident, je ne sais pas. Mais Dieu est puissant pour aller prendre soin de ces gens-là puis les détourner de leurs mauvaises intentions. Deuxième rocade qu'il y a à l'intérieur ici, c'est lorsque Paul, et cela a de l'air un petit peu bizarre parce qu'il dit au verset 31, « Et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. » Pourtant, c'est aussi une requête importante pour aujourd'hui. Je vous remets dans le contexte encore une fois pour comprendre ce que Paul est en train de faire comme prière ici. Paul est détesté par les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, d'accord? Blacklist, c'est un ennemi. Maintenant, il y a des Juifs qui se sont convertis à Jésus-Christ. Paul est allé annoncer l'Évangile un peu partout dans l'Empire romain. Et il y a plein de Juifs et de païens non-Juifs qui se sont convertis. Finalement, ces églises-là étaient majoritairement non-Juives. C'était des païens qui se convertissaient à l'Évangile en majorité. Paul s'en va là-bas, récolte des offrandes pour les chrétiens juifs de Jérusalem qui sont dans le besoin. Vous voyez un petit peu le topo, le contexte? Paul a des ennemis qui sont là. Il dit, ton évangile, c'est pas vrai, ça tient pas la route, Jésus est pas le sauveur. Paul s'en revient avec une tonne d'argent qui a été donnée par des païens pour des juifs. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Il y a un témoignage incroyable pour l'évangile. Je suis certain que Paul s'en venait avec son sac sur le dos, puis c'est un trophée qu'il y avait là. Parce qu'il s'en venait démontrer concrètement, très physiquement, à ces Juifs convertis à Jérusalem, à l'Église qui était à Jérusalem, que l'Évangile est puissant, même pour changer le cœur des païens, pour qu'ils donnent de l'argent pour aider les Juifs convertis là-bas qui sont dans le besoin. C'est l'Évangile vécu, c'est la puissance de l'Évangile démontrée concrètement. C'est la même chose lorsqu'on récolte des offrandes ici qui contribuent pour des missionnaires, puis que là, on aide à implanter une église là-bas au Chili. Puis là, Antonio et Hélène sont là, puis ils sont en train de dire, « Réalisez-vous qu'on est envoyé soutenu par des chrétiens au Canada pour annoncer l'Évangile ici? » Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Il n'y a personne qui gagne monétairement là-dedans, là. C'est juste par amour pour Christ, puis par amour pour vous. Alors, il me semble que Paul devrait être confiant qu'il va être bien reçu. Il arrive avec de l'argent, tu sais, t'as pas besoin de t'inquiéter de ça. Maintenant, si ça fait juste quelques années que vous servez le Seigneur, vous savez déjà qu'il ne suffit pas de vouloir servir le Seigneur et faire du bien aux chrétiens pour garantir que ça va être bien reçu. Le cœur de l'homme est plus tordu que ça. Il suffit pas de servir dans l'Église pour garantir que tout va être bien reçu. Puis que les gens vont voir l'amour de Christ, puis que les gens se sentiront pas jugés, puis que les gens se sentiront pas rejetés, puis que les gens verront pas des intentions derrière ça. C'est pas suffisant. Paul est en train de dire, j'arrive avec cet argent-là, Dieu a béni là-bas, il va falloir qu'il bénisse à l'autre bout aussi. Pour que ces chrétiens-là reçoivent ça avec joie et qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux. Que ces chrétiens-là soient pas hautains, qu'ils ne dédaignent pas de ces offrandes-là, juste parce que ça vient des païens. Et au contraire, qu'il voit éclater la gloire de Dieu. Et ça, c'est une des prières qu'on doit faire constamment. Lorsqu'on est dans le service, il ne faut pas juste prier pour que Dieu nous donne la force de faire ce qu'on a à faire, mais il faut prier pour ceux qui vont recevoir notre ministère, afin que Dieu dispose les cœurs des gens qui vont recevoir notre ministère. Je pensais à la jeunesse pendant que j'étais en train de préparer mon message. C'est tellement beau de voir toute l'énergie qui est déployée par les jeunes actuellement. Énormément de travail, d'efforts, vous avez vu les vidéos, le local, plein d'énergie pour organiser, pour aller chercher les jeunes, pour les encourager, pour les aider à se consacrer au Seigneur, pour les aider à se convertir, à venir au Seigneur. C'est génial! À l'Église, il faut être dans prière pour les jeunes. Parce que tous leurs efforts ne garantissent pas que ça va être bien reçu à l'autre bout. Il faut que l'Esprit-Saint précède, il faut que l'Esprit-Saint accompagne et qu'il ait préparé le terrain, pour que le message soit bien reçu, pour que ça tombe dans une bonne terre. Et ça, ça demande un combat. Voyez-vous la beauté de la grâce de Dieu? On est sauvé par grâce. C'est juste par la grâce de Dieu si on est ici ensemble ce matin pour adorer Dieu. C'est sa grâce seulement, ça. On est sauvé par grâce, on donne généreusement à cause de la grâce de Dieu dans nos vies. C'est pour ça qu'on le fait. On sert le Seigneur par sa grâce, par sa force. Et quand notre service porte de bons fruits, C'est parce que Dieu a disposé les cœurs aussi. C'est seulement par sa grâce. Pas grand-chose à voir là-dedans, nous autres. Nous ne sommes que des canaux de la grâce de Dieu. Et ça demande d'être baigné dans la prière. Voici comment on doit apprendre à prier, Église de l'Espoir. Pour les ministères, pour tous les projets, pour le spectacle qu'on est en train d'organiser pour Vendredi Saint, pour la jeunesse qui est en train de faire ça, pour les petits groupes, pour bouffe, pour tout. C'est comme ça qu'on doit prier. On doit prier pour que les opposants, on en soit délivrés et que l'Évangile puisse vraiment pénétrer. Il y a des gens qui vont s'opposer à ce que vos amis viennent au spectacle de Jéré. On doit prier pour que Dieu prépare les cœurs qui vont recevoir notre ministère, afin que ça porte des fruits. Et tout ça, c'est un combat qu'on doit aller livrer dans la prière ensemble. Et notre prière pour l'Église, c'est que dans les prochaines années, nos prières prennent de l'envergure et de la passion. Maintenant, on termine ce matin la série sur la prière et je termine avec l'ironie de Dieu. On va prendre un petit temps, quelques minutes pour prier. Tantôt, je vais faire venir les anciens et les anciens en formation. On va juste prier pour les six objectifs de notre vision. On vous libère dans une dizaine de minutes. Mais il y a une ironie de Dieu à la fin de ce passage-là, parce que nous, on entend la prière de Paul, pas juste quelques mois quand Rome reçoit la lettre, mais plus tard encore, et on connaît pas mal le résultat de cette requête-là. Dans sa requête, Paul demande qu'il soit délivré des opposants de la foi qui sont à Jérusalem. Il demande que ses offrandes, le monde qu'il apporte, soit bien reçu. Il demande qu'il puisse se rendre à Rome pour se reposer. Et on sait avec le texte qui précède que dans le fond, il veut se rendre en Espagne. Il y a juste une de ces quatre requêtes-là qui va être exaucée vraiment entièrement par Dieu. Les offrandes vont être bien reçues. Mais quand Paul va arriver à Rome, ses opposants, ses ennemis le lâcheront pas, ils vont réussir à le faire jeter en prison. Ensuite, il va aller passer 2 ans en prison à Césarée. Pour se rendre à Rome, c'est vrai, avec des chaînes aux pieds. Et pour autant qu'on sache, il ne se rendra jamais en Espagne. C'est l'ironie de Dieu. Paul avait dit quelque chose dans sa prière, vous avez peut-être remarqué au verset 32, « Si c'est la volonté de Dieu ». Ça vous rappelle la prière du Seigneur? Non, ma volonté, Père, mais la tienne. Et c'est une dernière leçon sur la prière. C'est qu'on doit prier avec envergure, avec foi. On doit voir grand, mais toujours dans une attitude d'entière soumission à Dieu. Sachant que si Dieu décide de prendre un autre chemin, il va accomplir de grandes choses à travers ça. Et c'est ce que Dieu a fait avec Paul lorsqu'il était dans les fers, à Rome. Il a livré un puissant témoignage pour l'Évangile. Dieu a exaucé des prières innombrables de Paul, mais pas celle-là. Et pourtant, Dieu avait ses desseins. Alors, on veut apprendre à prier comme lui, et apprendre à prier comme lui, c'est avec une entière soumission aussi à Dieu, tout en rêvant toujours plus grand. Pour finir la course comme l'apôtre Paul, en train d'essayer de saisir Christ, de repousser les limites du royaume et partir dans sa présence. Puis aller célébrer avec lui pour l'éternité. Je vais inviter les anciens en formation à venir me rejoindre à l'avant. On va prendre quelques minutes ensemble. Tour à tour, on va simplement prier pour les 6 objectifs de notre vision, puisqu'on veut prier pour le ministère. Est-ce qu'on a Jean-Paul? Est-ce que Jean-Paul est dans le coin? Oui. Il nous en manque un. Il doit être en train de conseiller. Paul est toujours en train de discuter avec quelqu'un. Es-tu là? Hey, Paul! Viens prier avec nous. C'est pas l'apôtre, mais on va accepter tes requêtes. On va se courber ensemble, puis librement, je vais laisser les frères prier chacun pour un des éléments de la vision.
Oui, Seigneur, on veut venir devant toi comme Yannick a dit, avoir un cœur compatissant pour les âmes, pour les gens de la ville, mais premièrement pour les gens de notre Église. Rechercher les besoins de chacun, les difficultés qu'ils rencontrent, qu'on soit comme Christ a été amour envers chacun, pour guérir, pour aider et encourager à persévérer, à marcher, avoir un amour pour Christ et un amour pour les gens de la ville de Longueuil. Merci, Amen. Seigneur, pour ce que tu vas faire dans cette église. Amen.
Oui, Seigneur, si tu nous as appelés à toi, c'est parce que avant on était ennemis de toi et on était séparés de toi, mais tu nous as attirés à toi afin qu'on devienne des adorateurs. Tu as dit à la femme samaritaine que un jour, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, c'est avec un cœur rempli d'un désir de t'adorer en esprit, parce que tu nous as donné ton esprit, mais aussi parce qu'on a un cœur passionné pour toi, qu'on veut t'adorer, te célébrer, célébrer ta gloire, Seigneur. Viens faire augmenter dans nos cœurs un amour pour toi, un amour entier pour toi, un amour qui va nous pousser à te glorifier pleinement dans nos vies. Par les chants qu'on t'apporte chaque dimanche, par le ministère de la chorale, par tout ce qu'on fait pendant la semaine, qu'on devienne des adorateurs, Seigneur, tout au long de la semaine. Et que nous puissions, Seigneur, grandir dans ta connaissance afin de pouvoir t'adorer en vérité. T'adorer comme ta parole nous l'enseigne. Et Seigneur, viens faire de nous des adorateurs pour ta gloire. Amen.
Oui, Père Céleste, comment il est bon de pouvoir dire, quand tu es rentré dans notre vie, Seigneur, que nous faisons partie de tes enfants. Et Seigneur, nous sommes rentrés en communion avec toi. Et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien, Seigneur, ne pourra nous séparer de ton amour. Et en rentrant en communion avec toi, Seigneur, nous rentrons aussi en communion avec nos frères et nos sœurs. Et quel privilège, quelle grâce, Seigneur, de pouvoir dire, les gens autour de moi ici dans cette église sont mes frères, mes sœurs. On peut prendre soin les uns les autres, s'encourager, s'exhorter, se pardonner, s'aimer, Seigneur. Et j'ai à cœur aujourd'hui de te prier pour que notre amour pour les autres puisse augmenter. Seigneur, mets dans notre cœur ce désir d'aller vers les autres dans l'assemblée. Si un frère ou une sœur souffre ou a un besoin, Seigneur, qu'on puisse avoir ce désir de combler ce besoin-là, Seigneur. Qu'on puisse aller vers les autres comme toi tu es venu nous chercher, Seigneur, qu'on puisse montrer ton amour et rentrer en communion avec les autres. Seigneur, je te prie particulièrement pour le ministère des petits groupes, pour les dirigeants, donne-leur du zèle, une persévérance, Seigneur, et mets dans notre cœur ce désir d'aller chercher de plus en plus de gens pour leur faire goûter une joie, une communion qu'on ne retrouve qu'en toi, Seigneur, différente de ce monde, un amour, une paix, une joie. Seigneur, nous avons tant hâte à ton retour où nous serons en communion avec toi, en communion avec nos frères et nos sœurs à travers les siècles. On a hâte à ton retour, Seigneur.
Amen. Amen.
Eh bien, Seigneur, comme on a vu ce matin, l'apôtre Paul avait à cœur de donner l'Évangile. Il voulait aller à Rome, en Espagne, un peu partout pour aller présenter l'Évangile de Jésus-Christ, parce qu'il voulait que plusieurs viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Seigneur, si tu nous as placés ici, dans cette belle région, c'est que tu veux aussi que nous puissions répandre la bonne odeur de l'Évangile, afin que les gens puissent connaître Jésus-Christ. Merci parce qu'un jour, tu as mis quelqu'un sur notre chemin pour venir nous présenter le merveilleux message du salut, afin que nous aussi, nous puissions devenir des enfants de Dieu. Nous lisons dans la lettre aux Éphésiens que ce que tu désires, ta vision pour le monde, c'est de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Seigneur, nous pensons à ces événements que nous aurons au cours de l'année, et nous te prions que ton esprit puisse attendrir les cœurs, comme on l'a vu ce matin avec Comiskey. Il avait vu en Équateur un sol fertile. Nous te prions pour un sol fertile ici, Amen. Seigneur, à Longueuil. Nous te demandons que tu puisses préparer les cœurs et que les gens soient réceptifs à Jésus-Christ. Nous pensons à la jeunesse, Seigneur. Nous aimerions voir des jeunes venir à toi et abandonner leur vie, leur avenir entre tes mains. Nous prions aussi pour nous pensons à tous ces jeunes qui vont étudier ici à ce nouveau campus de l'Université de Sherbrooke. Près de 8000 étudiants qui s'en viennent ici à peine à 2 kilomètres tout près. Nous te prions que tu puisses placer des chrétiens qui iront présenter l'Évangile dans le milieu de ce village étudiant. Nous prions au cégep, pour le cégep également, Seigneur. Bénis Jessica et les autres chrétiens et chrétiennes qui présentent l'Évangile à ces jeunes et que des étudiants du cégep puissent venir à toi. Nous pensons aussi à cette belle chorale qui s'en vient à Vendredi Saint, gérée. Que tu puisses mettre ta main puissante à tous nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, notre famille, et que plusieurs puissent répondre à l'invitation, Seigneur, de venir lors de cette soirée et cèdre leur vie en tes mains. Nous pensons à toutes les presses, à tous les journaux qui ont reçu un communiqué de presse annonçant cet événement. Que tu puisses mettre à cœur aux journaux de toute la région de diffuser cette publicité de cet événement et que nous puissions voir une foule nombreuse venir ici à Vendredi Saint, entendre non seulement des chanteurs, mais l'Évangile qui sera présenté. Ô Seigneur, nous te prions, tu sauves une multitude.
Notre Dieu, ta joie, c'est de nous voir croître, grandir, voir de la croissance, Seigneur, dans ton Église, voir la croissance dans ma vie de couple, dans mon foyer. Ô notre Dieu, combien tu te réjouis, Seigneur, de voir qu'on ne veut pas rester au statu quo, rester dans un état stagnant, Seigneur, mais qu'on veut grandir. Tu prends plaisir à ça, Seigneur, et on a des gens qui ont des dons spirituels dans cette assemblée, variés, Seigneur, pour qu'on puisse grandir, croître, devenir des soldats de Christ affermis. Oui, Seigneur, cette croissance, c'est d'appliquer les Écritures dans notre vie personnelle, de couple, de famille, en église, autour de nous, au travail, à l'école. Seigneur, c'est ma prière pour notre assemblée. Qu'on progresse constamment, progresse et encore, comme Paul dit aux Thessaloniciens, de poursuivre toujours notre progression, notre croissance. Merci, Seigneur, pour les frères et les sœurs dans cette assemblée qui se dévouent pour permettre à tous et chacun qu'on puisse croître dans la vérité et dans l'application des Écritures, Seigneur. Tel est notre désir. On a besoin que tu nous aides à nous réveiller de mieux en mieux, Seigneur, à travailler notre salut, à participer à cette croissance que tu veux faire en nous, Seigneur. Pour ta gloire uniquement, pas pour la nôtre. Amen.
Seigneur, nous voulons te remercier pour cette assemblée, pour tout ce que tu as fait déjà dans nos vies. Tu nous as saisis, tu nous as bouleversés. Et Père, j'aimerais te prier pour notre consécration au service. Seigneur, tu sais que la moisson est grande, tu sais que le champ est immense, que les tâches sont lourdes. Et pourtant, Père, tu nous as promis que c'est toi qui bâtissais ton Église, Seigneur Jésus, que tu pourvoyais. Alors à chacun d'entre nous, tu as donné des dons spirituels et un appel particulier. Ma prière, Père, c'est que tu viennes donner la joie à chacun des chrétiens et des chrétiennes de cette Église, afin qu'ils trouvent sa place dans le service. Et non seulement cela, Seigneur, mais je te prie aussi de me faire grandir et de nous faire grandir dans une attitude de serviteur, Seigneur. Comme Paul l'a dit dans cette prière, dans cette requête, c'est sous-entendu, Seigneur, que le service n'est pas toujours bien reçu. Et on a besoin de ton attitude, Jésus. J'ai besoin que tu me donnes toujours la force et la joie de servir pour toi, Seigneur. Avec joie, quelle que soit la manière que c'est reçu, Seigneur. Afin que les frères et sœurs puissent voir mon amour et qu'on puisse voir l'amour les uns des autres et cette humilité. Seigneur, que les gens qui viennent visiter cette église soient frappés par cette douceur, ce service, ce don de soi. Que ce soit une marque de cette Église, Seigneur. Merci déjà pour tout ce que tu fais et tous ceux qui sont engagés, Seigneur. Viens nous faire grandir. Et nous voulons élever ton nom, Père, parce que toutes ces choses ne sont possibles que par ta grâce. Nous reconnaissons ce matin, Seigneur, en ayant consacré ce mois à la prière et en consacrant cet après-midi à la prière, nous reconnaissons, Seigneur, que rien ne changera, rien ne bougera. Si tu ne te lèves, Seigneur, et si tu ne viens agir parmi ton peuple avec puissance, pour ta plus grande gloire, c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Merci les frères, merci pour votre patience.